VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au Mali, les auteurs de l'attaque de vendredi au Radisson Hotel de Bamako ont bénéficié de complicité pour se rendre à l'établissement et exécuter leur opération. C'est ce qu'a affirmé le procureur antiterroriste chargé de l'enquête à Bamako. Le procureur a invité à la prudence concernant les revendications de l'attaque, estimant qu'aucun groupe n'était cependant à écarter. Après le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Bel Mokhtar, c'est autour donc du front de libération du Massina, groupe djihadiste du centre du Mali, de revendiquer le carnage qui a fait, vous le savez, 22 morts vendredi dans la capitale malienne. Un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attaque débute lundi. L'état d'urgence de 10 jours a été aussi décidé par le gouvernement. Alors que le procureur antiterrorisme a ouvert donc cette enquête, les forces de sécurité sont à la recherche de 3 suspects de l'attaque. Le président Alpha Condé de Guinée appelle à la solidarité de ses compatriotes. Il demande toutefois aux Guinéens de rester vigilants. Zakaria Camara est notre correspondant à Conakry.
Les 3 jours de deuil national décrétés par les autorités maliennes seront aussi observés en Guinée en guise de solidarité, a annoncé samedi le président guinéen qui poursuit en s'attaquant au terrorisme. Il faut que tous les Guinéens prennent leurs responsabilités. Il faut que tout le monde fasse le policier, conseille-t-il. Le président Condé s'est même voulu menaçant. Je fermerai toutes les écoles franco-arabes où les élèves portent le voile intégral. A-t-il dit, le président guinéen n'est pas sa première sortie contre le port du voile intégral. Il y a quelques mois, Alpha Condé avait émis l'idée d'un débat national sur le sujet. Les autorités guinéennes suivent avec attention les événements de Bamako, Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, la campagne électorale bat son plein et pour la société civile, c'est l'occasion de sensibiliser les électeurs à la corruption liée aux élections. Zoumana Wanogo est notre correspondant à Ouagadougou.
Pendant que les politiques battent la campagne pour avoir des électeurs à tout prix, à côté, il y a les organisations de la société civile qui font elles aussi la campagne, mais pas pour les mêmes raisons. Le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, mène, elle, une campagne contre les pratiques irrégulières en matière d'élection. Dieudonné Yameogo, le président d'honneur du RENLAC, explique.
Aujourd'hui, que constatons-nous? C'est la publicité partout. Purement et simplement, la publicité politique. Or, la loi électorale interdit ça. Au niveau des affichage même. La loi électorale indique qu'il y a des lieux spécifiés par l'autorité communale où les partis doivent aller afficher là-bas. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, les affichages se font n'importe comment. Sur le plan financier, nous menons une campagne de sensibilisation pour amener les gens à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas prendre 10 000 francs pour aller voter là qui est le problème. Le problème qu'on doit résoudre là, c'est savoir est-ce que la personne qu'on va élire là, est-ce que cette personne est à même de régler nos problèmes.
En parallèle, il y a cette autre campagne qui se base sur l'humour pour corriger les mœurs politiques. On écoute Abdoulaye Diallo du Centre national de presse Norbert Zongo, initiateur de Humour, corruption électorale et élections apaisées.
On a décidé effectivement d'utiliser l'humour, la dérision, mais pour passer un message fort. Chaque humoriste va vendre son projet et le public est tenu de voter et à la fin on va choisir le président qui sera élu. Et c'est pour ça qu'on a installé une commission humoristique électorale nationale indépendante, la CHENI. Le président élu va passer un message, cette fois-ci pas un message d'humour, mais un vrai message au candidat qui va être élu après les élections du 29 novembre. C'est cette campagne d'éducation, de sensibilisation de la population. C'est cette campagne que nous menons. Nous ne menons pas la campagne pour être élu député ou être élu président, mais pour que quand les députés et le président qui vont être choisis soient vraiment le reflet de la volonté du peuple.
Après ta révolte, ton vote, tel est le mot d'ordre lancé par le balai citoyen pour inciter la population à aller voter. Suivons ce qu'en dit Seydou Zengue et Kevin Tiemtouré, 2 jeunes étudiants.
On s'est révolté contre le président Blaise Compaoré et deuxièmement contre un coup d'État qu'on a jugé stupide. Passons maintenant au vote. Votons celui que nous jugeons capable de nous diriger et ne pas chercher à modifier l'article 37 comme certains l'ont voulu faire.
C'est un slogan qui nous pousse à aller voter, à choisir un président qui va nous conduire à un développement, à un pays plus émergent.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, encore un week-end sanglant. Au moins 5 personnes ont été tuées. Une vingtaine de jeunes ont également été arrêtés et conduits à la prison centrale de Bujumbura. D'autres ont été relâchés. La violence s'intensifie même dans certaines contrées profondes du Burundi. À Makamba, au sud du pays, près de la frontière avec la Tanzanie, des personnes dorment à la belle étoile la nuit, craignant pour leur sécurité, selon une ONG internationale. À Bujumbura, rejoignons Christophe Nkurunziza.
Les témoignages de la population du quartier Ngagara sont formels. Vers 16h samedi après-midi, dans le bar chez Masuguru, près du lycée Saint-Albert, un groupe de policiers tire. Puis une vingtaine de jeunes qui étaient en réunion de mariage sont arrêtés. Mais entre-temps, 3 personnes, dont un employé d'une banque, sont tuées. Le porte-parole adjoint indique que des criminels armés étaient en réunion dans ce cabaret. Des armes, dont des Kalachnikovs, ont été saisies selon la police. Alors que la population s'interroge comment des jeunes qui sont en réunion pendant la journée peuvent-ils être arrêtés, la police affirme que c'est pour des raisons d'enquête. Mais les sources des familles de ces jeunes reconnaissent qu'ils ont été déjà amenés à la prison centrale de Mpimba. Presque toute la nuit de samedi vers dimanche, les tirs à l'arme automatique et des grenades ont été entendus dans différents quartiers contestataires au sud et au nord de Bujumbura. Une personne a été tuée à Ruziba au sud, tandis qu'une autre a été retrouvée morte au nord du pays, dans la province de Kirundo, près de la frontière avec le Rwanda. Mais selon une ONG internationale réfugiée, la violence est aussi remarquée dans la province de Makamba, au sud du Burundi. Des familles craignent pour leur vie et dorment dans la forêt ou à la belle étoile, tout comme la plupart des citadins vivant dans les quartiers contestataires de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le pape François s'apprête à visiter 3 pays africains du 25 au 30 novembre. Il se rendra en Ouganda, au Kenya et en Centrafrique. Le souverain pontife trouvera pour son premier voyage sur le continent une église en pleine croissance, véritable pouvoir politique et social, mais qui affronte des défis redoutables, dont l'islamisme radical. Morgan Guiriek.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Et c'est la première fois que Jorge Bergoglio se rend en Afrique, continent où la croissance des catholiques est la plus rapide. Au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique, François trouvera des communautés chrétiennes sur la défensive face au djihadisme. L'Église catholique africaine campe sur des positions très intransigeantes en matière de mœurs, dénonçant le conditionnement par les pays occidentaux de leur aide à l'adoption de législations favorables à la contraception, l'avortement et l'homosexualité. Le pape devait lancer des appels forts à maintenir la coexistence pacifique et l'esprit de tolérance traditionnelle entre chrétiens et musulmans. François devrait aussi demander aux catholiques africains de surmonter les haines ethniques alors que celles-ci renaissent au Burundi de manière menaçante. L'échec à empêcher le génocide du Rwanda en 1994 reste le grand échec du catholicisme africain.
Élection en Égypte, deuxième étape hier des législatives devant bouger et déboucher sur la formation d'une assemblée nationale pour la première fois depuis 3 ans. Les partisans du président Abdel Fattah el-Sissi avaient raflé la mise au premier tour et aucun candidat de l'opposition n'est représenté dans le scrutin de dimanche. Côté sécurité, la police a déployé des dizaines de milliers d'agents au Caire et dans 12 provinces pour garantir le bon déroulement du processus. Bruxelles vit aujourd'hui sa troisième journée d'alerte antiterroriste maximale au lendemain d'une série d'opérations policières qui n'ont pas permis d'arrêter Salah Abdel Salam, suspect clé dans l'enquête sur les attentats de Paris. Les autorités belges ont décidé hier dimanche de maintenir une journée de plus le niveau d'alerte à son maximum dans la capitale européenne et de prolonger la fermeture du métro. Les écoles sont fermées ainsi que les crèches, les universités, les grandes écoles. Quant à la France voisine, elle va rendre hommage à ses morts cette semaine avec les premiers enterrements qui devraient commencer ce lundi avant un hommage national vendredi. Le secrétaire d'État américain John Kerry a quitté Washington hier pour un voyage au Moyen-Orient qui va mettre l'accent sur la guerre civile syrienne et les efforts multinationaux pour une transition politique à Damas, ainsi que la violence qui continue entre Israël et les Palestiniens. Avec le premier ministre Netanyahou et le président Abbas, John Kerry envisage probablement des mesures qui pourraient mettre fin à un frein à la spirale de violence dans la région et ouvrir la voie à un calme permanent au Moyen-Orient. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.